C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On accueille quand même Nathalie Normando, bonjour.
Bonjour, Louis.
Et Luc Ferrandaise.
Salut, vous deux.
Alors, on va commencer avec le premier sujet. Luc, on va commencer avec toi. Tiens, est-ce que les délais en justice peuvent être résorbés? Je voyais ce matin dans le Journal de Montréal où on est obligé de reporter des procès parce qu'il manque de greffières, parce qu'il manque de personnel. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Je pense pas. Je pense que les délais en justice, là, c'est un peu comme les repas dans les CHSLD. On va en parler encore pendant 20 ans. Puis, j'ai vu une photo de repas dans un CHSLD, j'en profite, on est vendredi pour ouvrir une petite parenthèse. J'en reviens pas. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Il y avait 4 petits pois, il y avait une boule de crème glacée, mais en fait, c'est des patates pilées, puis un carré jaune, on ne savait pas ce que c'était, servi à 4 heures l'après-midi. En tout cas, toujours est-il que les délais en justice, c'est la même chose. C'est un déni de justice. Là, on est rendu à 1000 jours pour une cause aux petites créances. 1000 jours pour une cause aux petites créances. Donc, ça peut atteindre des années. Et puis, on a en chambre criminelle, c'est encore pire, des risques de dépassement des 18 mois qui sont prescrits par l'arrêt Jordan par milliers. Écoute, c'est l'enfer. Alors, il manque de juges, il manque de personnel administratif, de greffiers, d'huissiers ou d'audienciers. Le syndicat, il parle de centaines de personnes manquantes, de postes non comblés, des postes non comblés chez les juges aussi. Et imagine-toi donc que ça va s'empirer, ça, parce que la juge Riendeau, la juge en chef de la Cour du Québec, a décidé que elle voulait que les juges ne siègent qu'une journée à tous les 2 jours plutôt que 2 jours sur 3 à partir de septembre. Et si cette décision était adoptée telle quelle, il y aurait 50 000 causes qui pourraient aller au-delà des délais de l'arrêt Jordan. Alors, on est vraiment, vraiment dépassé par les événements à Québec là-dessus.
Oui, dépassé par les événements, mais en particulier au Palais de justice de Montréal. En fait, moi, contrairement à toi, Luc, je crois qu'il faut arrêter de dire « peut-on faire quelque chose ?» C'est « on doit faire quelque chose ». Il faut quitter le monde des possibilités pour celui des obligations. Pourquoi ? Parce que le système de justice, c'est une institution qui joue un rôle stratégique dans notre société, au même titre que l'Assemblée nationale qui adopte des lois ou encore le gouvernement qui prend des décisions. Le ministère de la Justice est un des trois piliers, un des trois socles de notre société, de notre démocratie. Alors, on ne peut pas composer avec des demi-mesures lorsqu'il s'agit de notre système de justice. Et j'ai envie de vous dire, puis Luc, je suis tout à fait, j'ai pas de lunettes rouges, je tiens à te rassurer, là. Je salue ton réalisme. Cependant, dans le cas qui nous occupe, le Conseil du Trésor ne peut plus avoir de règles. En fait, les règles qui guident le Conseil du Trésor, par exemple, pour l'embauche de personnel dans le réseau de la justice, prenons l'exemple des greffières, qui sont sous-payées, hein, faut-il le dire. Là. Le salaire d'un greffier ou d'une greffière, ça va de, je fais un chiffron, là, de 35 000 à 46 000, alors qu'ils peuvent facilement avoir 20 000 $ de plus dans le secteur privé. Alors, dans ces conditions-là, les règles actuelles d'embauche du Conseil du Trésor sont devenues désuètes et intenables, surtout dans le contexte de la pénurie de travailleurs. On ne peut plus continuer de faire comme on le faisait au Conseil du Trésor il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, par exemple. Et il faut vraiment donner un coup de barre très important parce que les effets vont être catastrophiques et ça va se terminer de quelle façon? Mais les gens vont perdre confiance dans notre système.
Tu as vu qu'ils l'ont fait avec les juges là, au début de l'année. Le gouvernement a augmenté substantiellement, là, 22 à 50 les salaires. La première offre qu'ils avaient mise sur la table, c'était 9,3. Puis finalement, ils se sont rendus aux arguments d'un conciliateur qui leur a dit, écoutez, ça marche pas, là, ils vont partir par les fenêtres. D'ailleurs, c'est le cas. Ouais. Puis là, ils sont passés un salaire de 310 000 $ moyen. Ils sont partis de 254 000 à 310 000. Et puis pour les juges de paix, c'est encore plus. Là, c'est jusqu'à 50 d'augmentation. Mais pour les greffières, il semble qu'il faut requalifier le poste. Le gouvernement, il suffit pas de l'augmenter, parce que c'est comme pour les juges. Si on regardait l'augmentation prévue pour l'ensemble des fonctionnaires, ça donnait 9% sur 3 ans. Et là, si tu donnes ça, tu perds toutes les greffières. Alors, ils ont dit, ben là, faut requalifier le poste, puis ils ont mis un comité en place, mais ils viennent de le mettre, le comité en place. Comment ça se fait qu'ils se réveillent maintenant?
Ça fait presque 2 ans, même 1 an et demi, la presse titrait ça il y a pas longtemps, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inusitées dans le contexte actuel. Il y a 1 an et demi, les 3 juges en chef des 3 différents différentes cours au Québec ont envoyé une lettre au ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, en disant, écoutez, ça ne peut plus fonctionner. Nous, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire une émission de radio tous les matins s'il n'y avait pas le metteur en onde, les recherchistes? Ben, c'est un peu la même chose, en fait. La façon dont ça fonctionne à la cour, ben, tu as besoin de tout le personnel qui accompagne les juges. Alors, il y a un an et demi, oui, on a lancé cet appel qui est inusité auprès du ministre de la Justice. On a répondu en partie aux demandes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement le ministre de la Justice qui peut intervenir. Il y a le Conseil du Trésor qui joue le rôle le plus important parce que c'est lui qui donne les autorisations de poste.
Mais Nathalie, il n'y a pas juste... Je comprends la question des salaires puis tout ça, puis c'est important de bien traiter les gens.
C'est plus qu'important, là. C'est devenu stratégique.
Oui, oui, c'est essentiel. Mais t'es prends où? Ils n'existent pas, ces gens-là. Même si on les paye mieux, ils n'existent pas.
Oui, ils existent, en fait, parce que là, il y a une espèce d'hémorragie qu'on n'a pas pu colmater depuis déjà plusieurs années. Ils quittent pour le secteur privé, les greffiers, les greffières. Il y a d'autres personnels qui se voyant. Donc, entre nous, là, on peut-tu dire les vraies affaires? Là? Un greffier avec toutes les responsabilités qui viennent avec sa tâche.
35 000 50 000, c'est le même salaire qu'une préposée aux bénéficiaires.
Ouais. Ben, donc, ça n'a pas de bon sens.
Puis en plus,
là.
S'ils sont absentes, la cour ne peut pas ouvrir. Là. Il y a eu des cas où il y avait cinq cours du palais de justice fermés parce qu'il manquait de greffiers et greffières. Mais par contre, je pense qu'il faut regarder un petit peu plus, de façon plus approfondie là, la différence de salaire avec le privé. Et c'est important de parler de ça parce que c'est la même chose avec beaucoup, beaucoup de postes, dont les ingénieurs, par exemple. Si tu regardes juste le salaire, il y a une grosse différence avec le privé. Et quand tu regardes les horaires, les jours de formation, la retraite, la couverture en cas d'absentéisme. Quand tu regardes tout ça, ça donne à peu près la même chose. Mais moi, je pense que le gouvernement, une fois pour toutes, devrait se dire, si on perd des employés parce qu'on a une grille de salaire, de rémunération qui, au total, le total est à peu près le même, mais c'est donné différemment, mais changeons la maudite grille.
Ouais. Ben oui, absolument, parce que c'est pas juste une question, il y a les salaires, mais c'est l'impact que ça va avoir sur la confiance qu'ont les citoyens à l'endroit du système de justice. Je parlais de situation inusitée, là. L'autre situation inusitée, c'est des juges qui sont obligés de s'excuser auprès des citoyens devant eux qui souhaitent obtenir justice, et on s'excuse devant eux en disant, mais savez-vous quoi, on peut pas entendre votre cause aujourd'hui, même si ça fait 3, 4 ans, 5 ans. Le Journal de Montréal a parlé d'histoires absolument incroyables. Alors, écoute, des juges aussi qui profitent de leur... sont sur le banc de leur tribune pour dire, écoutez, la situation est devenue intenable. Mais ça aussi, c'est complètement et totalement inusité.
Oui, oui, vraiment. Et les juges ont commencé à considérer qu'on s'en va vers un déni de justice. Là. Je l'ai lu tel quel. Là. Parce que, tu sais, comme c'est basé sur la mémoire...
L'heure est grave, sans tomber dans le fatalisme.
Mais je me demande, Nathalie, Louis, je me demande s'il n'y a pas, de la part du gouvernement... une volonté de faire réduire la charge de travail en espérant que, notamment aux petites créances, il y ait un abandon des cas ou plus de médiation ou plus d'entente hors cours parce que la justice est devenue tellement complexe. La charge de travail à laquelle l'État doit faire face, là. Tu sais, la complexité des dossiers d'agression sexuelle, ça demande... Il n'y a pas de preuves tangibles. Ça demande des jours et des jours. On le voit avec Amber Heard puis... avec Johnny Depp, mais à plus petite échelle, là, ça demande quasiment des psychologues, des analyses de psychologie, etc. Ça n'en finit plus. Là. C'est une charge de travail qui s'est ajoutée, qui n'était pas là il y a 20 ans. Là. La remise en cause constante de la preuve par les avocats de la défense, là, est-ce que la preuve a été communiquée à temps, en version originale, dans la langue demandée? Non, c'est pas cette langue-là, c'est l'autre langue que je voulais. T'sais, les délais, ça augmente. Ouais. Jusqu'à quand l'État va pouvoir dire, oui, nous, on va faire face à ça, là, sans problème, on va juste ajouter des juges, des greffières.
Mais la médiation, ça devient effectivement une solution fort intéressante, mais pas dans tous les cas. Par exemple, en chambre criminelle, les juges l'ont dit, la juge en chef de la Cour du Québec l'a dit, les causes sont de plus en plus complexes et les juges doivent rédiger des jugements, des décisions qui sont très longues. Hein. C'est des 85, c'est des 100, dans ça, des 100 pages. Là, c'est 115 pages, 120
sinon,
pages.
Oui.
Exactement, c'est ça. Alors, c'est plus complexe.
Bon, on va s'arrêter là-dessus pour le temps d'aller à la pause, mais tout de suite après, si vous allez faire votre rapport, mes chers commissaires.
Oui, monsieur.
Après ceci.
La commission Normando-Ferrandaise.
Eh bien, c'est maintenant l'heure de faire votre rapport, cher commissaire. On va commencer avec Nathalie.
Oui.
Évidemment, l'un des éléments cette semaine, c'était le rapport de la coroner Jeanne Kamel. Hein?
Effectivement, médaille d'or à cette coroner pour son rapport sur la mort de 53 personnes âgées. 53 décès qui font état du contexte absolument épouvantable dans lequel ces personnes sont décédées, déshydratées, affamées, mortes dans leurs excréments. Et je me disais, ces 53 décès forment la trame de fond du plus grand scandale dans l'histoire du Québec en matière d'hébergement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a une PDG qui a démissionné, il y a une ministre qui a été épargnée, il y a plusieurs qui ont été blâmés, mais personne n'aura à faire face à des accusations de nature criminelle. Il semblerait que sauver sa peau et sa réputation, ça a été plus important que sauver des vies. Je suis très sévère ce matin, mais on était tous traumatisés collectivement par ce qui s'est passé. Et de toute évidence, j'ai bien hâte de voir si on va tant apprendre que ça de ce qui s'est passé.
Bon.
Et l'âge de la médiocrité. Oh, t'avais un commentaire à faire là-dessus?
Non, pas du tout. Je voulais juste t'amener à ton deuxième sujet.
Ah, inquiète-toi pas, j'y arrivais, mon cher Louis, j'y arrivais. Éloge de la médiocrité. Ouais. C'est la presse qui nous apprend cette erreur humaine qui serait à l'origine de la décision du ministère des Transports d'arracher l'asphalte installé en 2021 sur un tronçon important de l'autoroute métropolitaine. Le coût estimé de l'opération, 10 millions de dollars, qui sera assumé, il semblerait, par Roxboro Excavation qui a réalisé les travaux. Le bitume utilisé n'était pas de la bonne qualité, mais moi, après avoir lu l'article, le mystère demeure. Pourquoi le ministère des Transports n'a pas pu vérifier la qualité du béton avant avant le début des travaux? Et l'autre question, celle-là, ça ressemble à une question qui tue. Pourquoi le MTQ accorde toujours des contrats à cette entreprise? Et je vous invite à faire une petite recherche sur Internet à propos de Roxboro Excavation. Troisième point qui a retenu mon attention, urgence, il y a urgence en la demeure. Nos abeilles sont en danger. Toujours la presse qui révélait cette semaine que les 440 apiculteurs du Québec ont perdu jusqu'à 80% de leurs abeilles. C'est une situation qui est jugée critique pour laquelle les deux paliers de gouvernement sont appelés à bouger. Les apiculteurs réclament 12 millions de dollars pour rebâtir leur cheptel d'abeilles. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est toute la sécurité alimentaire, enfin une chaîne importante de la sécurité alimentaire du Québec qui pourrait être perturbée. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas le temps des comités, des palabres. Ça prend de l'action et vite. Et très, très vite. Et je vais terminer mon rapport en parlant de l'art de faire rayonner le Québec à l'échelle canadienne. Au Canada, j'ai nommé Charlotte Cardin et Jannick Fournier, la première grande gagnante des prix Juno, et la seconde, la nouvelle star du Québec, grande gagnante Canada Got Talent. C'était une très, très belle semaine pour le Québec sur le plan culturel.
Et quelle voix, les deux, là. Mais Madame Fournier, on ne l'avait jamais. En fait, elle n'était pas très connue avant cet épisode-là, mais on a découvert une sacrée belle voix. Hein.
Vraiment, c'est beau là, tu sais, avec la candeur et la générosité, puis c'est une préposée aux bénéficiaires dans la vie. Ouais. Alors vous comprendrez que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est très très fière aujourd'hui, et tout le Québec également. Alors félicitations à Charlotte Cardin et Jannick Fournier.
Et Luc, tu veux commencer toi aussi avec les abeilles?
Oui, parce que tu sais, les abeilles, vont disparaître, ont disparu, il y a moins d'abeilles. Mais attends, regardons les chiffres là. C'était 25% de réduction sur 20 ans. Là, c'est 55 à 70% en début de saison de mortalité. Ouais. Et ça, c'est créé par quoi? Par un petit acarien qui s'appelle Varroa. Et Varroa, il est influencé par qui? Il est influencé par le climat. Donc, les années exceptionnellement chaudes et longues, un printemps hâtif, de la sécheresse, plus d'acariens. Tu vois, quand on dit les changements climatiques, oui, bon, on s'en occupera plus tard. Mais là, tu sais, on a une cause à effet là, précise. Là. Et 80%, 70% de réduction dans certains cas, pardon, plutôt 55% en moyenne, mais dans certains cas 70, direct impact sur les bleuetières, direct impact aussi sur les maraîchers. Augmentation des fruits et légumes, on a-tu besoin de ça? Alors, on doit sensibiliser. C'est-tu drôle, hein? Il y a une solution, c'est pas une solution à toute épreuve, mais il y a une solution que la ville de Rouyn-Noranda a engagée puis qu'on peut tous faire. Ceux qui ont du gazon, moi, j'en ai pas. Mais c'est de ne pas couper les pissenlits.
Exact. Laisser les pissenlits pousser.
Ah, le défi pissenlit, Luc, moi, je suis d'accord avec ça. Go. Oui.
Pour permettre aux abeilles d'avoir le plus possible de fleurs sur lesquelles butiner. Mm-hmm. Facturer des grosses cabanes, un article de Francis Veil qui a été inspiré par une analyse d'Olivier Pinault. Écoute, moi, tu sais, ça fait longtemps que je connais l'électricité, puis tout ça, puis là, ça m'a jeté par terre parce que je m'en rappelais. Je me suis pas rendu compte. Il y a des cabanes, là, qui consomment 3, 4, 5, 10 fois plus que la moyenne. Donc, il y a des maisons qui consomment presque autant que des petites fermes. Parce que cuisine à induction, spa, piscine chauffée, voiture électrique, et surtout, l'entrée de garage extérieure chauffante. pour que t'aies pas à mettre un affreux.
Je veux pas pelleter.
Ça c'est ton genre, Luc. Hein? C'est vraiment
oui, c'est
ton
ça.
Genre.
Mais te rends-tu compte? C'est le, t'sais, mais le fait qu'on facture pas ça, c'est-à-dire qu'on facture pas la puissance, l'appel de puissance, en plein en hiver, en plein pendant que t'en as besoin là. Il y a des gens qui chauffent dehors pour que on n'ait pas à pelleter ou on n'ait pas à mettre un affreux abri. Et donc, nous autres, on met pas une tarification particulière là-dessus. Hydro-Québec, non, décide que les appels de puissance particuliers vont gérer ça avec de l'incitatif. Ils installent le système Helio et ils disent, oui, ben c'est au propriétaire de gérer sa demande d'électricité. Bon, well, si on fait pas ça, on va faire quoi? T'sais, je veux dire, c'est le minimum. En tout cas, hey, je vais te donner un. Vous parler d'une affaire. Moi, j'ai toujours été convaincu que t'as beau regarder les dossiers autant que tu veux quand t'es un élu, t'as zéro contrôle. Zéro contrôle sur ce qui se passe. Je vais vous parler de la rénovation de l'hôtel de ville. On annonce qu'il va coûter 168 millions. La rénovation va finir par se solder à 168 millions. C'est pas fini. Fait que là, on fait une prévision. Peut-être que ça va être plus. Ça a commencé à 30 millions, la première prévision. 30 millions. Quand j'étais au comité exécutif, là, un jour, les immeubles sont venus nous voir et ils ont dit ils étaient rendus à 40 millions. Ils ont dit écoute, on est désolé, non, mais c'est impossible. On vous demande un budget autour de 60, 65 millions, je ne me rappelle pas. Et puis là, on a posé, comprends-tu, des tonnes de questions. Attends une minute, là, tu passes de 40 à 65 millions. Êtes-vous sûr que ça n'augmentera plus après, là? Oui, ça n'augmentera plus. On a tout regardé, on a tout évalué, on a regardé toute la possibilité des mauvaises nouvelles, on va ouvrir tous les murs, on a prévu qu'on changeait tous les fils, etc. Ça c'était à 60 millions. Après ça, en 2017, c'est passé à 88 millions. Après, c'est passé à 116, à 140, puis là, c'est à 168. Et c'est quoi l'argument? Quand on a ouvert les murs, on a eu des surprises.
Ben oui, mais c'est sûr.
Mais comment? C'est sûr. C'est des années d'évaluation, du coup.
Ben oui, je sais, mais c'est toujours comme ça. Ah, imagine, là, tu parles d'hôtel de ville, mais à Québec, ils vont refaire le Salon Bleu au Parlement. Imagine quand ils vont ouvrir les murs, qu'est-ce qu'ils vont trouver?
Ouais, mais voyez aussi là, l'explosion du coût des maisons des aînés. Là. C'est épouvantable. Ouais. Là.
C'est ça.
Écoute, moi, tu construis un 45 chambres, Luc. Tu construis un 45 chambres, ça te coûte, là, c'est pratiquement 1 million par chambre. Là. Voyons donc.
Il y a un bar ouvert sur les ressources en ce moment. Là. C'est clair. Ouais. Fait que quand tu dis je vais aller de l'avant, les gens, ils prennent les contracteurs, ils prennent des notes. Je vais aller de l'avant à tout prix, je vais ouvrir à tout prix. OK, ils prennent en note ça. OK, on va ouvrir. C'est correct. Mais au coût. Puis. Pour le Salon Bleu, là, regarde bien ça. Un petit truc là, pour ceux qui veulent évaluer le projet. Multiplié par 4, ajoutez 50%.
Ouais, t'as pas mal ça. Madame Normando, M. Ferrandez, merci beaucoup. À lundi.
Merci, à la prochaine.
Salut. À mardi plutôt, parce que lundi, c'est férié.
C'est 23.